pouvez aussi nous entendre sur le site internet www.radio-6rdcfm.com. Je vous souhaite bien sûr à tous, chers auditeurs et chères auditrices, une très bonne année 2025. La santé, c'est le principal. Plus tarder, je vais commencer cette émission sur un thème du mois dernier, le thème des contes de Noël. Effectivement, le mois dernier, je n'ai pas présenté mon émission, alors je me rattrape sur le mois de janvier et je vous propose la lecture de quelques contes de Noël. Je vais en lire plusieurs, peut-être 3 ou 4, en fonction du temps que j'aurai. Et bien sûr, je vous souhaite une très bonne audition, une bonne écoute à la lecture de ces quelques contes. Je commencerai avec un conte Nuit de Noël de Guy de Maupassant. Le réveillon, ah mais non, je ne réveillerai papa. Le gros Henri Templier disait cela d'une voix furieuse, comme si on lui eût proposé une infamie. Les autres, riant, s'écrièrent « Pourquoi te mets-tu en colère ?» Il répondit « Parce que le réveillon m'a joué le plus sale tour du monde » et que j'ai gardé une insurmontable horreur pour cette nuit stupide de gaieté imbécile. Quoi donc ? Quoi ? Vous voulez le savoir ? Eh bien écoutez. Vous vous rappelez comme il faisait froid, voici 2 ans à cette époque. Un froid a tué les pauvres dans la rue. La Seine gelait, les trottoirs glaçaient les pieds à travers les semelles des bottines. Le monde semblait sur le point de crever. J'avais alors un gros travail en train et je refusais toute invitation pour le réveillon, préférant passer la nuit devant ma table. Je dînais seul, puis je me mis à l'œuvre. Mais voilà que vers 10 heures, la pensée de la gaieté courant Paris, le bruit des rues qui me parvenait malgré tout, les préparatifs de souper de mes voisins, entendu à travers les cloisons, m'agitèrent. Je ne savais plus ce que je faisais. J'écrivais des bêtises. Et je compris qu'il fallait renoncer à l'espoir de produire quelque chose de bon cette nuit-là. Je marchais un peu à travers ma chambre. Je m'assis, je me relevais. Je subissais, certes, la mystérieuse influence de la joie du dehors et je me résignais. Je sonnai ma bonne et je lui dis « Angèle, allez m'acheter de quoi souper à 2. Des huîtres, un perdreau froid, des écrevisses, du jambon aussi et des gâteaux. Montrez-moi 2 bouteilles de champagne, montez-les et mettez le couvert et couchez-vous. » Elle obéit, un peu surprise. Quand tout fut prêt, j'endossai mon pardessus et je sortis. Une grosse question restait à résoudre. Avec qui allais-je réveillonner ? Mes amis étaient invités partout. Pour en avoir une, il aurait fallu m'y prendre d'avance. Alors, je songeais à faire en même temps une bonne action. Je me dis, Paris est plein de pauvres. et de belles filles qui n'ont pas un souper sur la planche et qui errent en quête d'un garçon généreux. Je veux être la providence de Noël d'une de ces déshéritées. Je vais rôder, entrer dans les lieux de plaisir, questionner, chasser, choisir à mon gré. Et je me mis à parcourir la ville. Certes, je rencontrais beaucoup de pauvres filles cherchant aventure, mais elles étaient laides à donner une indigestion ou maigres à geler sur pied si elles s'étaient arrêtées. J'ai un faible, vous le savez, j'aime les femmes nourries. Plus elles sont en chair, plus je les préfère. Une colosse me fait perdre la raison. Soudain, en face du théâtre des variétés, j'aperçus un profil à mon gré. Une tête, puis par devant, deux bosses, celle de la poitrine, fort belle, celle du dessous, surprenante. Un ventre d'oie grasse. J'en frissonnais, murmurant « Sacristie, la belle fille !» Un point me restait à éclaircir, le visage. Le visage, c'est le dessert. Le reste, c'est le rôti. Je hâtai le pas, je rejoignis cette femme errante et sous un bec de gaz, je me retournai brusquement. Elle était charmante, toute jeune, brune, avec de grands yeux noirs. Je fis ma proposition, qu'elle accepta sans hésiter. Un quart d'heure plus tard, nous étions attablés dans mon appartement. Elle dit en entrant, « Ah, on est bien ici !» Et elle regarda autour d'elle avec la satisfaction visible d'avoir trouvé la table et le gîte en cette nuit glaciale. Elle était superbe, tellement jolie qu'elle m'étonnait, et grosse à ravir mon cœur pour toujours. Elle ôta son manteau, son chapeau, s'assit et se mit à manger. Mais elle ne paraissait pas en train. Et parfois, sa figure un peu pâle tressaillait comme si elle eût souffert d'un chagrin caché. Je lui demandai « Tu as des embêtements ?» Elle répondit « Bah, oublions tout !» Et elle se mit à boire. Elle vidait d'un trait son verre de champagne, le remplissait et le revidait, encore, sans cesse. Bientôt, un peu de rougeur lui vint aux joues et elle commença à rire. Moi, je l'adorais déjà, l'embrassant à pleine bouche, découvrant qu'elle n'était ni bête, ni commune, ni grossière comme les filles du trottoir. Je lui demandai des détails sur sa vie. Elle répondit « Mon petit, cela ne te regarde pas. » Hélas, une heure plus tard, enfin le moment vint de se mettre au lit. Et pendant que j'enlevais la table dressée devant le feu, elle se déshabilla vivement et se glissa sous les couvertures. Mes voisins faisaient un vacarme affreux, riant et chantant comme des fous. Et je me disais, j'ai eu rudement raison d'aller chercher cette belle fille. Je n'aurais jamais pu travailler. Un profond gémissement me fit me retourner. Je demandais, qu'as-tu, ma chatte ? Elle ne répondit pas. Mais elle continuait à pousser des soupirs douloureux comme si elle eût souffert horriblement. Je repris. « Est-ce que tu te trouves indisposée ?» Et soudain, elle jeta un cri déchirant. Je me précipitai une bougie à la main. Son visage était décomposé par la douleur et elle se tordait les mains, haletante, en voyant du fond de sa gorge ces sortes de gémissements sourds qui semblent des râles et qui font défaillir le cœur. Je demandais, éperdue, « Mais qu'as-tu ? Dis-moi, qu'as-tu ?» Elle ne répondit pas et se mit à hurler. Tout à coup, les voisins se turent, écoutant ce qui se passait chez moi. Je répétais, « Mais où souffres-tu ? Dis-moi, où souffres-tu ? » Elle balbutia, « Oh, mon ventre ! Mon ventre !» D'un seul coup, je relevai la couverture et j'aperçus. Elle accouchait, mes amis. Alors je perdis la tête. Je me précipitai sur le mur que je heurtais à coups de poing de toute ma force en vociférant « Au secours ! Au secours !»
ma porte s'ouvrit. Une foule se précipita chez moi, des hommes en habits, des femmes décolletées, des pierrots, des turcs, des mousquetaires. Cette invasion m'affola tellement que je ne pouvais même plus m'expliquer. Eux, ils avaient cru à quelque accident, à un crime peut-être, et ne comprenaient plus. Je dis enfin, c'est cette femme qui accouche. Alors tout le monde l'examina, dit son avis. Un capucin, surtout, prétendait s'y connaître et voulait aider la nature. Ils étaient gris comme des ânes. Je crus qu'ils allaient la tuer. Et je me précipitai, nu-tête, dans l'escalier, pour chercher un vieux médecin qui habitait dans une rue voisine. Quand je revins vers le docteur, et avec le docteur, toute ma maison était debout. On avait rallumé le gaz de l'escalier. Les habitants de tous les étages occupaient mon appartement. Quatre débardeurs attablés achevaient mon champagne et mes écrevisses. À ma vue, un cri formidable éclata et une laitière me présenta dans une serviette un affreux petit morceau de chair ridé, plissé, geignante, miaulant comme un chat. Et elle me dit: c'est une fille. Le médecin examina l'accouchée, déclara douteux son état, l'accident ayant eu lieu immédiatement après un souper, et il partit en annonçant qu'il allait m'envoyer immédiatement une garde malade et une nourrice. Les deux femmes arrivèrent une heure après, apportant un paquet de médicaments. Je passai la nuit dans un fauteuil, trop éperdu pour réfléchir aux suites. Dès le matin, le médecin revint. Il trouva la malade assez mal. Il me dit: « Votre femme, monsieur... » Je l'interrompis. « Ce n'est pas ma femme. » Il reprit: « Votre maîtresse, peu m'importe. » Et il énuméra les soins qu'il lui fallait, le régime, les remèdes. Que faire? Envoyer cette malheureuse à l'hôpital? J'aurais passé pour un manant dans toute la maison, dans tout le quartier. Je la gardais. Elle resta dans mon lit 6 semaines. L'enfant? Je l'envoyais chez des paysans de Poissy. Il me coûte encore 50 francs par mois. Ayant payé dans le début, me voici forcé de payer jusqu'à ma mort. Et plus tard, il me croira son père. Mais pour comble de malheur, quand la fille a été guérie, elle m'aimait. Elle m'aimait éperdument, la gueuse. Eh bien, elle était devenue maigre comme un chat de gouttière, et j'ai flanqué dehors cette carcasse qui me guette dans la rue, se cache pour me voir passer, m'arrête le soir quand je sors, pour me baiser la main, m'embête enfin à me rendre fou. Et voilà pourquoi je ne réveillonnerai plus jamais. Voilà ce conte très drôle, très dur aussi, de Guy de Maupassant, Nuit de Noël, qui est un extrait d'une nouvelle qui s'appelle Mademoiselle Fifi, que je ne connaissais pas du tout. Et ce joli conte se termine. Je vais pouvoir passer à un autre conte de Noël. En attendant, je vous propose une petite pause musicale avec les Beatles.
I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her, she gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love like ours could never die. As long as I have you near me, bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her.
Et voilà cette très douce chanson des Beatles, And I Love Her. Je continue avec donc ce thème des contes de Noël. Après Guy de Maupassant, je vous propose Hans Christian Andersen, un petit conte qui s'appelle La petite fille aux allumettes. Ce petit conte qui fait vraiment deux pages, donc je vais pouvoir l'enchaîner avec un autre conte derrière, est extrait des contes Andersen. La petite fille aux allumettes. Il faisait atrocement froid. Il neigeait. L'obscurité du soir venait. Il faut dire que c'était le dernier soir de l'année, la veille du jour de l'an. Par ce froid, dans cette obscurité, une pauvre petite fille marchait dans la rue, tête nue, pieds nus. C'est-à-dire, elle avait bien mis des pantoufles en partant de chez elle. Mais à quoi bon ? C'étaient des pantoufles très grandes. Sa mère les portait dernièrement, tellement elles étaient grandes, et la petite les perdit quand elle se dépêcha de traverser la rue au moment où deux voitures passaient affreusement vite. Il n'y eut pas moyen de retrouver l'une des pantoufles, et l'autre, un gamin l'emporta. Il disait qu'il pourrait en faire un berceau quand il aurait des enfants. Et donc la petite fille marchait, ses petits pieds nus, tout rouges et bleus de froid. Dans un vieux tablier, elle tenait une quantité d'allumettes et elle en avait un paquet à la main. Personne, de toute la journée, ne lui en avait acheté. Personne ne lui avait donné le moindre skilling. Affamée, gelée, l'air lamentable, elle marchait. La pauvre petite. Les flocons de neige tombaient sur ses longs cheveux blonds, si joliment bouclés sur la nuque, mais assurément, elle ne pensait pas à cette parure. À toutes les fenêtres brillaient les lumières, et cela sentait si bon l'oie rôtie dans la rue. C'était la veille du jour de l'an, n'est-ce pas ? Et elle y pensait. Oh oui. Dans un coin entre deux maisons, dont l'une faisait un peu saillie, elle s'assit et se recroquevilla. Elle avait replié ses petites jambes sous elle, mais elle avait encore plus froid. Et chez elle, elle n'osait pas aller, car elle n'avait pas vendu d'allumettes, pas reçu un seul skilling. Son père la battrait. Et il faisait froid à la maison aussi. Ils n'avaient que le toit au-dessus d'eux,
Le vent pénétrait en sifflant, bien qu'on eût bouché les plus grandes crevasses avec de la paille et des chiffons. Ses petites mains étaient presque mortes de froid. Oh, qu'une petite allumette pourrait faire du bien. Si seulement elle osait en tirer une du paquet, la frotter contre le mur, se réchauffer les doigts. Elle en tira une. Sritch ! Comme le feu jaillit, comme elle brûla. Ce fut une flamme chaude et claire, comme une petite chandelle qu'elle entoura de sa main. C'était une étrange lumière. La petite fille eut l'impression d'être assise devant un grand poêle de fer aux boules et aux tuyaux de laiton étincelant. Le feu brûlait délicieusement, chauffait si bien. Mais qu'est-ce qui se passe? La petite étendait déjà les pieds pour les réchauffer aussi. La flamme s'éteignit, le poêle disparut. Elle restait, tenant à la main un petit bout de l'allumette brûlée. Elle en frotta une autre, qui brûla, qui éclaira. Et là où la lueur tomba sur le mur, celui-ci devint transparent comme un voile. Elle voyait à l'intérieur d'une salle où la table était mise, couverte d'une nappe d'un blanc éclatant, de fine porcelaine et l'oie rôtie, farcie de pruneaux et de pommes, exhalait un fumet délicieux. Et chose plus magnifique encore, l'oie sauta du plat, sans vin, se dandinant sur le plancher, une fourchette et un couteau dans le dos. Elle alla jusqu'à la pauvre fille. Alors, l'allumette s'éteignit, et il n'y eut plus que le gros mur glacé. Elle en alluma encore une. Alors, elle se trouva sous le splendide arbre de Noël. Il était encore plus grand et plus décoré que celui qu'elle avait vu par la porte vitrée, ce Noël-là, chez le riche marchand. 1000 bougies brûlaient sur les branches vertes et des images bariolées, comme celles qui décorent les dentures des boutiques, baissaient le regard sur elles. La petite tendit les deux mains et l'allumette s'éteignit. Les nombreuses bougies de Noël montaient de plus en plus haut. Elle vit que c'était maintenant l'éclair d'étoiles. L'une d'elles tomba en traçant une longue raie de feu dans le ciel. « Voilà quelqu'un qui meurt !» dit la petite, car sa vieille grand-mère, la seule personne qui eût été bonne pour elle, mais qui était morte maintenant, avait dit « Quand une étoile tombe, c'est qu'une âme monte vers Dieu. » De nouveau, elle frotta une allumette contre le mur. Elle éclaira à la ronde, et dans cette lueur, il y avait la vieille grand-mère, bien claire, toute brillante, douce et bénie. « Grand-mère !» cria la petite. « Oh, emmène-moi. Je sais que tu disparaîtras quand l'allumette s'éteindra. » Disparaîtra comme le poêle bien chaud, la délicieuse oie rôtie et le grand arbre de Noël béni. Et elle frotta très vite tout le reste des allumettes du paquet. Elle tenait à garder sa grand-mère. Et les allumettes brillèrent d'un tel éclat qu'il faisait plus clair qu'en plein jour. Jamais la grand-mère n'avait été si belle, si grande. Elle prit la petite fille sur son bras et elles s'envolèrent dans cette splendeur et cette joie, bien haut, là où il n'y avait pas de froid, pas de faim, pas d'angoisse. Elles étaient auprès de Dieu. Et dans le recoin de la maison, à l'heure du matin glacé, la petite fille était assise, les joues rouges, un sourire à la bouche. Morte, morte de froid le dernier soir de l'année. Le matin du nouvel an se leva sur le petit cadavre, assis avec ses allumettes, dont un paquet était presque entièrement brûlé. Elle a voulu se réchauffer, dit quelqu'un. Personne ne sut les belles choses qu'elle avait vues, dans quelle splendeur elle et sa grand-mère étaient entrées dans la joie de la nouvelle année. Un conte très dur, triste aussi, mais plein de joie pour cette nouvelle année. Et cette petite fille avec son petit sourire a quand même vu de très jolies choses à la lumière des allumettes. Je continue avec un nouveau conte, cette fois-ci un conte de Jean Giono qui s'appelle « Les Santons » et qui est extrait d'un livre qu'il a écrit qui s'appelait « Provence ». Nous avons tous fait des crèches, puis nos enfants en ont fait à leur tour. Alors, si nous observons, nous voyons que c'est plus qu'un magnifique jeu d'hiver, c'est un moyen d'expression. Au fond, nous sommes toujours à l'époque des cavernes. Il nous faut dessiner sur les parois. Il n'y a pas que les santons. Il y a la composition du paysage. Ce n'est jamais un paysage de Judée. C'est toujours celui qui nous est familier. Le Marseillais y représente Marseille. Le Manosquin, Manosque, le Parisien, Paris. Ainsi donc, d'après nous, le Fils de Dieu est né dans les rochers d'Aloc, la colline du Mont d'Or ou le bois de Boulogne. Cela le rend fameusement proche. Plus encore, Aloc, le Mont d'Or, le bois de Boulogne ou la forêt de Fontainebleau, ou cette transparente forêt de bouleaux nus, près d'un étang glacé, dans laquelle Bruegel place son massacre des innocents, sont installés sur le dessus de la commode familière, sur une étagère de crédence, sur le buffet débarrassé de ses bibelots. S'il n'y eut jamais façon d'accommoder les légendes au pot-au-feu, de mesurer en même temps que de s'approprier, la voilà. Tous les objets ménagers y concourent. De mon temps, les collines que je représentais en papier gris étaient faites d'un substratum de volume d'Eugène Sue, d'Alexandre Dumas et d'un exemplaire des poésies de Malherbe. Il n'a jamais servi qu'à ça. Je me demande pourquoi mon père gardait ce livre sur son établi de cordonnier. L'année dernière, mes filles ont fait entrer le plateau de Valensol dans Bethléem parce qu'elles disposaient des gros volumes d'un Becherel. Elles avaient aussi adopté pour le sol ces grandes feuilles de papier buvard vert qui me servent de sous-main, si bien que nous étions en plein printemps, à l'époque où le blé vert fait tapis anglais sous les amandiers. Moi, de mon temps, je faisais les rivières avec du papier de chocolat. Rivière bien différente de notre Durance, la seule qui m'avait été donnée de voir à cet âge, car la création se fait toujours par rapport à la réalité, donc parfois contre. Mais, papier de chocolat, attention, c'était de vraies feuilles d'étain, si vraies, si lourdes et si épaisses, que ma mère les gardait précieusement, les roulait en boule, et quand la boule était assez grosse, en faisait rétamer les cuillères et fourchettes. Ce papier de chocolat, artistiquement pendu dans les anfractuosités des volumes d'Eugène Sue, recouvert de papier gris, donnait de somptueuses cascades vernissées, grâce de quoi faire rêver tous les hydrauliciens de l'EDF. Le papier de chocolat actuel ne donne qu'une eau maigre, sans reflet, et dont on se demande en fin de compte si elle est potable, si elle n'est pas souillée de naphte ou de sel. Je disais à mes filles qu'à mon avis, elles faisaient plus Judée que mes anciennes cascades norvégiennes. Elles m'ont répondu que la Judée était le dernier de leurs soucis et qu'elles désiraient une nature capable de représenter l'eau profonde, l'eau bleue, l'eau des Danubes et peut-être même l'eau sans rive des Amazones dont tous les esprits provençaux sont tentés. Nous voilà loin des lieux saints de l'histoire sainte, mais il est bon de voir que rien ne se fait sans le rêve et le désir, même pas le divin enfant. Quand on s'entend, proprement dit, à la façon dont ils sont placés dans le paysage, on découvre le secret des cœurs. J'ai été pendant toute mon enfance entourée de dames et de demoiselles fort dévotes. Toutes, naturellement, composaient des crèches. Autour de l'étable proprement dite, elles disposaient leur paysannerie d'argile. Devant les tables, les rois mages, bien entendu. Puis sur les chemins, les collines, dans les vallons, sur les ponts, dans les prairies, sous les arbres, le peuple en marche. Peuple chargé de présents, portant des paquets de morues sèches, des pains de sucre, des rouleaux de dentelle et même des couteaux aiguisés. Ce n'est pas l'essentiel. Où je le vois, c'est dans la dispersion de ce peuple à travers le paysage. Certaines de ces dames et demoiselles dévotes qui disposaient de 100 et même de 200 sujets composaient des crèches où finalement la pauvre petite étable était bien seule dans ses étoiles et ses comètes. Tout le reste de la population était à bâiller aux corneilles par les chemins. En direction de l'étable, mais en train de muser, musarder et même de ruser, en train de vivre quoi ? En train de vivre égoïstement pour soi-même. Or, je vis la crèche qu'avait faite un soir, sinistre de décembre 1899, une pauvre fille assez mal estimée dans le quartier. Cette pauvre fille n'avait pu s'acheter qu'une vingtaine de centons et en plus des personnages divins et des rois. Elle n'avait pas pu, ou pas eu le temps, ou pas eu la présence d'esprit de composer le paysage. Sur la table nue de la cuisine, à même les carreaux de la toile cirée, elle avait posé l'enfant, sans étoile ni comète, et tout autour, bien serré, contre, dans la même misère, roi et peuple mélangés. Et voilà pour ce troisième conte, conte de Jean Giono. Je vous propose une petite pause musicale avec Luis Mariano et je reprendrai après pour de nouveaux contes de Noël.
La belle de Cadix vous invite à l'amour. Les cavaliers sont là, si dans la porte là, on apprend qu'elle dame. Et pour ces jolis vieux noirs, les hidalgos le soir viennent taper la chasse. Mais malgré son sourire et son air engageant, la belle de Cadix ne veut pas de Namas. Aïe 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 chica chica chic, aïe 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 chica chica chic, aïe 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 ne veut pas de nama. La belle de Cadix a les yeux langoureux. La belle de Cadix a beaucoup d'amoureux. Juanito de Cristobal, tu es bien son rival, tu as l'oncle de lune. Et Pedro le matador, pour les mêmes plus encore, donne-lui sa fortune. Malgré son sourire et son air engageant, la belle de Cadix Cadig ne veut pas de Namar. Chica chica chic, aïe aïe aïe, chica chica chic, aïe aïe aïe, chica chica chic, aïe aïe aïe, ne veut pas de Namar. La belle de Cadig fait parmi eux bonjour. La belle de Cadig fait parmi sans retour. Jamais eu d'amant. La belle de Cadix est entrée au couvent. Tika tika tik, aïe aïe aïe. Tika tika tik, aïe aïe aïe. Tika tika tik, aïe aïe aïe. Oh.
Et voilà cette très jolie chanson de Luis Mariano, La Belle de Cadix. Vous êtes bien sur RDC 93.4 et 92.5 sur la région de Saintes. Votre émission À vos oreilles avec Alizée continue jusqu'à 15h sur les ondes de Radiodiffusion Charente. Le thème de cette émission, les contes de Noël. Effectivement, pour ceux qui nous rejoindraient en cours d'émission, c'est un thème en décalé, vu que je n'avais pas pu faire mon émission en décembre. Je décale pour le mois de janvier. Nous sommes encore en hiver, donc le conte de Noël peut encore avoir sa place. Là, je vais continuer avec un autre conte, cette fois-ci de Joseph Kessel. On est sur le thème de la Russie. Un conte de Noël qui s'appelle « Le réveillon du colonel Gerkov ». Serge Gerkov, colonel à la garde impériale, enleva son cache-poussière, baissa le rideau de fer et sortit de la librairie où, toute la journée, pour un salaire assez misérable, il ficelait des paquets de volumes. Son pardessus était mince. Le soir était d'un froid acide. Gerkov marcha très vite. Il atteignait bientôt le boulevard Saint-Michel et se dirigea vers la rue Tournefort où il occupait une chambre mansardée. Une fatigue profonde pesait sur ses membres et faisait le vide en son esprit. Elle venait de si loin qu'il la subissait sans l'apercevoir. Des mois de lutte mortelle en Russie, des années de privation à l'étranger, les occupations mécaniques, fastidieuses et sans issue, auxquelles il était astreint, y avaient ajouté un sceau définitif. Il allait à travers une cohue de passants, sans remarquer qu'elle était plus dense et désœuvrée qu'à l'ordinaire. Pour lui, ce soir-là ne différait pas des autres. Il irait, comme tous les jours, acheter quelques provisions, préparerait son dîner sur une lampe à pétrole et se coucherait très las. Dans l'épicerie où il se fournissait régulièrement, il eut une surprise. La pièce était pleine de chalands, ménagères affairées, petites gens, pour qui la vie matérielle était chaque matin une équation difficile à résoudre, choisissaient des victuailles que, à l'ordinaire, leur état leur interdisait. Le colonel se souvint qu'on était au 24 décembre, le soir du réveillon. Il lui sembla que son cœur s'alourdissait. La joie des autres et cet air de fête qui embellit les plus humbles visages lui rendait tout à coup plus cruel et comme neuve sa misère, sa tristesse, sa solitude. Hâtivement, il fit ses achats, monta dans sa chambre. Pour la première fois, il en vit toute la pauvreté. Mais, sentant obscurément que l'indifférence morne qui l'imprégnait d'habitude lui permettait seule
de supporter la vie qu'il aimait. Serge se contraignit d'un rude effort à poursuivre, sans réfléchir, l'accomplissement machinal de ses gestes quotidiens. Il arriva ainsi à préparer son bref repas et à le manger sans goût. Mais lorsque l'heure vint de se déshabiller, la force lui manqua. Le sourd travail intérieur que sa volonté avait réussi à masquer jusque-là portait ses fruits amers. Dans cette nuit joyeuse, entouré par l'immense ville dont il semblait entendre la rumeur de plaisir, le sommeil ne viendrait point. Et la pensée d'étendre son corps sur le grabat, dur et glacé pour n'y point dormir, lui fut intolérable. Il se mit à marcher à travers la chambre, tandis qu'une angoisse vacillait dans ses yeux. Des images fragmentées se bousculaient sous son front. Il ne pouvait s'attacher à aucune d'elles, mais toutes apportaient un lambeau de détresse qu'il était impuissant à vaincre. Inconsciemment, Gerkov s'arrêta devant sa malle, l'ouvrit et, d'une enveloppe, tira 2 billets de 100 francs. Puis il se passa la main sur les tempes et murmura comme réveillé : « Je suis fou !» Un sourire douloureux crispa sa bouche. Il venait de comprendre qu'il voulait, lui aussi, quelque part dans le bruit, la lumière et le vin, fêter le réveillon. Il haussa les épaules. Quel rêve enfantin! Cet argent qui tremblait entre ses doigts était sa réserve suprême contre l'inconnu. Longtemps, le colonel resta immobile, rêvant, et brusquement, l'appel invincible, venu du plus profond de sa chair, qu'il avait jeté au cœur des rouges batailles, qui lui avait fait gagner et perdre des fortunes sur un coup de dé. Cet instinct du risque et de l'oubli, que sa vie terne d'émigré avait pu réduire, mais non pas supprimer, l'emporta. Il chiffonna les 2 billets, les glissa dans sa poche, descendit l'escalier. Roide arrêta une voiture et au chauffeur, il cria de sa voix de grand seigneur, miraculeusement retrouvé, « À Montmartre !» Intrigué, les soupeurs examinaient cet homme aux 2 tailles qui, seul, à une table, inclinait son fier visage meurtri sur une coupe de champagne. L'usure de ses vêtements étonnait parmi le luxe insolent, mais ses mains étaient si parfaites qu'elles anoblissaient ses manchettes élimées. Un orchestre nègre faisait trembler les cristaux. La clarté des lustres avait l'éclat et la dureté d'un métal en fusion. Mais le tumulte et la lumière, les rires et les danses, loin de verser au colonel Serge, cet anéantissement de la mémoire qu'il était venu chercher, lui donnait au contraire une acuité terrible de souvenir. Il n'avait pas encore touché au vin doré, mais, dans sa trame palpitante, les yeux de Gerkov retrouvaient tout un monde évanoui. Une file de traîneaux, attelée de troïka couverte de sonnettes claires, glissait comme une tempête heureuse sur la neige aux reflets bleus de lune. Les cochers excitaient les chevaux écumants avec des cris affectueux et farouches. Dans la capitale entière, ce n'était que son de cloches de Noël et bruit de chansons. La Neva royale et glacée brillait entre les perspectives de palais et d'églises. On allait aux îles. Déjà, la griserie chauffait le sang des hommes, amollissait le regard des femmes. L'air vif et pur y mêlait une allégresse légère et pleine de fraîche volupté. Puis, les tziganes. Leurs troupes, faisait jaillir des violons et des gorges toute la joie, toute la tristesse. Les rudes mélodies, nées dans les steppes du bruissement des herbes et du murmure des eaux, animaient les romances vulgaires d'ivresse, de désespoir et d'amour. Et le colonel Jerkov se rappela celui qui menait le cœur brutal et superbe, Mitka la canaille, avec ses yeux d'ébène polis, ses joues grasses et sa voix cuivrée. Mitka l'incomparable à qui l'on jetait l'or par poignée pour qu'il exaspérât encore l'ardeur frénétique des siens. Une colère souleva Serge Jerkov contre sa propre naïveté. Comment avait-il pu croire que, après des réveillons pareils, il trouverait quelque plaisir à une fête mesurée? Pour s'étourdir, il vida d'un trait sa coupe, mais le champagne lui parut fade. Il appela le garçon, lui jeta ses deux derniers billets et se leva. Mais un tressaillement le raidit. L'orchestre s'était tu, et d'une draperie qui se levait surgit, bariolée et sonore, une troupe bronzée aux dents éclatantes. « Les tziganes !» murmura le colonel. Il retomba sur sa chaise. Les archers, comme des flammes, coururent sur les cordes chantantes. Les voix riches et meurtries montèrent dans la salle enfumée. Tout s'effaça pour Jerkov, sa famille massacrée, sa misère sans issue, les travaux mesquins, l'existence ruinée. Il ne vivait plus que dans les rythmes barbares et splendides, dans cet orage déchaîné de joie et de somptueux désespoir. Sur un accord brusque, la mélodie mourut. Un lourd enchantement oppressa le colonel, mais une assiette pleine de billets et tendue devant lui vint l'en tirer. Machinalement, il fouilla ses poches, elles étaient vides. Il leva des yeux confus sur le quêteur et un tremblement le secoua. Mitka, c'était Mitka. Les années n'avaient point entamé la ronde fermeté de sa figure, l'éclat luisant de ses yeux, ni son sourire familier et servile. Le tzigane aussi l'avait reconnu. Ses prunelles vives coururent sur les traits émaciés de Jerkov, sur son veston fripé. Il s'inclina respectueusement et dit en russe « Ne vous en allez pas avant la fin, votre excellence Serge Jerkov. Nous fêterons le Noël comme au bon vieux temps. » Jusqu'à l'aube, dans un cabinet particulier, Mitka la canaille, en souvenir des nuits des îles, soulla Jerkov de ses chansons préférées. Et le colonel eut contre lui, attentive à ses désirs, deux filles au sein brun. Et voilà pour ce conte aussi, assez dur, mais qui se termine sur une note très joyeuse et lumineuse, ce conte de Joseph Kessel, le réveillon du colonel Jerkov. Je vous propose une pause musicale, cette fois-ci avec Brigitte Bardot, Harley Davidson. À de suite.
Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Et si je meurs demain, c'est que telle était mon destin. je tiens bien moi à la vie qu'à mon terri blanche.
Et voilà cette chanson de Brigitte Bardot. Vous êtes toujours sur RDC 93.4, 92.5 en région de Saintes. Je continue, ce sera cette fois-ci le dernier conte de cette émission à vos oreilles avec Alizé. Cette fois-ci, c'est un conte de Charles Dickens qui s'appelle Noël quand nous prenons de l'âge. Il fut un temps pour la plupart d'entre nous où le jour de Noël, entourant comme d'un cercle magique tout notre univers limité, ne nous laissait rien à regretter ni à rechercher. Où ce jour rassemblait tous nos plaisirs, toutes nos affections, tous nos espoirs familiaux, groupait tout, choses et êtres, autour de la flambée de Noël et rendait complète la petite image qui se reflétait dans nos jeunes yeux étincelants. Il vint un temps, bien trop vite peut-être, où nos pensées franchirent d'un bond cette étroite frontière, où il fut une personne qui manquait à la plénitude de notre bonheur, où notre absence était pareillement ressentie devant l'âtre auprès duquel était assise cette personne le jour de Noël, et où nous entremêlions le nom de cette personne à toutes les couronnes et à toutes les guirlandes de notre vie. Ce fut l'époque des lumineux Noël visionnaires qui se sont depuis longtemps envolés loin de nous pour ne plus réapparaître que faiblement, après une pluie d'été, parmi les plus pâles franges de l'arc-en-ciel. Ce fut l'époque des plaisirs extatiques dus à ce qui devait être, mais ne fut jamais, à ce qui pourtant était rendu si réel par notre robuste espérance qu'il serait difficile de dire aujourd'hui quelles réalités accomplies depuis lors ont été plus puissantes. Quoi ? N'est-il jamais venu en vérité ce Noël où nous-mêmes et la perle de grand prix, objet de notre choix juvénile, nous fûmes accueillis après le plus heureux des mariages, totalement impossible, dans l'harmonie des deux familles qui étaient auparavant à couteau tiré à cause de nous ? Ou des beaux frères et des belles sœurs qui s'étaient toujours montrés froids envers nous avant que notre union fût scellée, se mirent bel et bien à nous adorer, et où nos pères et nos mères nous comblèrent de fortunes sans limite. N'a-t-il jamais été réellement dégusté ce repas de Noël, après lequel nous nous levâmes pour rendre hommage, avec autant de générosité que d'éloquence, à notre rival de naguère, présent parmi les convives, et échangeâmes sur le champ avec lui amitié et pardon, posant ainsi les fondements d'une affection sans égale dans l'histoire de la Grèce et de Rome, qui subsista jusqu'à la mort. Ce Noël où nous venions d'acquérir tant de réputation, où nous avions été portés en triomphe quelque part pour quelque action grande et belle, où nous nous étions fait un nom honoré et ennobli, où nous revenions au foyer pour y être accueillis par un déluge de larmes de joie. Se peut-il que ce Noël-là ne soit pas encore arrivé ? Et notre vie ici-bas est-elle, en mettant les choses au mieux,
constitué de telle sorte que, quand nous nous arrêtons en chemin, devant le remarquable jalon qu'est ce grand anniversaire, nous contemplions ce qui n'a jamais été de manière aussi naturelle et tout aussi solennelle que ce qui a été et n'est plus, ou ce qui a été et est encore. Non, loin de nous, chers lecteurs, cette prétendue philosophie le jour de Noël. Laissons-nous plutôt pénétrer le cœur par l'esprit de Noël, qui est l'esprit de l'activité utile, de la persévérance, de l'accomplissement joyeux du devoir, de la bonté et de la tolérance. C'est en particulier dans l'exercice de ces dernières vertus que nous sommes, ou que nous devrions être, fortifiés par les visions non réalisées de notre jeunesse. Qui en effet ira prétendre que ces visions ne nous enseignent pas à traiter avec douceur les petits riens les plus impalpables de la vie terrestre? Par conséquent, quand nous prenons de l'âge, rendons grâce en voyant s'élargir le champ de nos pensées de Noël et des leçons qu'elles nous ont apportées. Accueillons avec faveur chacune d'elles, invitons-les à prendre place auprès de la cheminée de Noël. Soyez les bienvenus, aspirations d'antan, étincelantes créatures d'une imagination ardente, venez occuper votre place à l'abri, sous le houx. Nous vous reconnaissons, la vie ne nous a pas encore détachés de vous. Soyez les bienvenus, projets et amours d'antan, quelque éphémère que vous ayez été, venez occuper vos niches parmi les lumières plus stables qui brillent autour de nous. Soyez les bienvenus, toutes choses qui furent jamais réelles pour nos cœurs, et pour la sincérité qui vous rendit réelle, grâce soit au ciel. Devant ce jeune garçon, s'étend un avenir plus resplendissant que tous ceux que nous avons contemplés dans notre bon vieux temps romantique, mais resplendissant d'honneur et de loyauté. Autour de cette petite tête sur laquelle s'accumulent les boucles ensoleillées, se jouent les grâces, aussi joliment, aussi légèrement qu'à l'époque, où le temps n'avait pas de faux à portée de la main pour faucher les cheveux bouclés de notre premier amour. Bienvenue à tout, bienvenue pareillement à ce qui a été, à ce qui jamais ne fut et à ce qui est notre espoir pour l'avenir. Prenez place autour de la cheminée de Noël où s'assemblent, le cœur ouvert, tous ceux qui sont. Dans ce coin d'ombre là-bas, ce que nous voyons intercepter furtivement, la lueur de la flambée, est-ce le visage d'un ennemi? En ce jour de Noël, nous lui pardonnons assurément. En ce jour, nous n'excluons rien. En ce jour de Noël, plus qu'en aucun autre jour de l'année, nous voulons tourner nos regards vers cette cité et du milieu de ces foules silencieuses, ramener parmi nous ceux que nous avons aimés. Oui, nous pouvons contempler ces jeunes anges qui descendent, si solennels et si beaux, parmi les jeunes vivants au coin du feu. Alors, nous pourrons supporter de penser à la façon dont ils nous ont quittés. Et voilà pour ce dernier conte de Charles Dickens, Noël quand nous prenons de l'âge. Cette émission touche à sa fin. Je vous remercie à tous d'avoir été présents pour écouter cette émission à vos oreilles avec Alizé. Je vous propose une prochaine émission le mois prochain, le troisième samedi de chaque mois, de 14h à 15h, 93.4 et 92.5 sur la région de Saintes. Vous pouvez aussi écouter cette émission ainsi que toutes les autres émissions de la radio sur le site internet www.radio-6rdcfm.com. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. Restez bien au chaud, prenez soin de vous et encore une très bonne année.
et je vous dis au mois de février.